Et j'espère que t'as pas le vertige.
A feeling of dizziness.
Vertigo.
A swimming in the head.
Well, I didn't see that coming.
Evidently. 21h-22h, Vertigo, présenté par Lucien Ducasse.
Infatti la musica è un'entità astratta, noi vogliamo per forza, il pubblico vuole per forza trovare nella musica un significato o dei significati. La musica non dovrebbe avere dei significati.
This is where it gets a bit metaphysical.
This will be my home.
Everyone, have a great day.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de Vertigo, un vertige musical qui commence par une ambiance sonore inhabituelle, comme vous pouvez entendre actuellement. Et pourtant, ça n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un numéro spécial. En fait, c'est surtout un petit clin d'œil à celles et ceux d'entre vous qui connaissent peut-être Radio Campus Bordeaux et sa programmation nocturne, puisque l'on écoute actuellement le générique de Goodnight Bordeaux, qui fut aussi Goodnight Campus pendant un temps. Tout ça parce que l'on va donner une nouvelle fois la parole à un invité ce soir, et pas des moindres, puisque l'on va aujourd'hui s'intéresser à une petite partie de la vie et du parcours musical du présentateur de l'émission dont je viens de parler, mon ami et collègue des ondes, Lucas Huguet. Bonsoir Lucas.
Et bonsoir.
Et notre clin d'œil à cet autre vertige musical du réseau Radio Campus, c'est tout simplement parce que tu en es l'animateur, on y reviendra. Mais d'abord, rappelons le concept de Vertigo dès lors qu'un invité se retrouve ici même derrière le micro. On va s'intéresser à ce qu'a pu être ton rapport à la musique jusqu'à aujourd'hui et l'impact que tout ça a pu avoir dans ta vie, avec un point de départ qui sera le même, comme avec notre premier invité. Ça sera aussi le cas pour les prochains, et je préviens, c'est vertigineux. C'est quoi ton rapport à la musique, Lucas? Quelle est la place de la musique dans ta vie, tout simplement?
Ah, c'est là, oui, effectivement, on est sur une belle question de philosophie, là. On se retrouve en terminale, là.
À chaque fois, ça claque.
Ouais, ça claque fort. Depuis tout petit, on m'a beaucoup conditionné à l'école, le boulot. J'avais pas beaucoup de loisirs à côté. Vers les 14 ans, un truc comme ça, j'ai pu me dégager un loisir, c'était la musique. Parce que j'ai retrouvé la guitare de mon père qui était dans le garage de mes grands-parents, qui traînait là depuis bien des années. Pour ceux qui connaissent, c'est une Yamaha FG332 de 1982.
Pas mal.
Elle était fabriquée au Japon et c'est une guitare qui avait beaucoup de défauts, mais qui sonne très bien, mais qui pour un débutant est vraiment pas cool. Parce qu'elle était très dure. C'est avec elle que je me suis un peu plus engagé dans la musique et que j'ai commencé à regarder un peu l'envers du décor. Parce que depuis tout petit, mes parents écoutaient pas mal de musique, évidemment, comme tout le monde. Pas mal de rock années 90, pas mal de pop rock. Typiquement la prog d'RTL de l'époque, RTL 2, c'était typiquement ce qui passait à la maison. Et là, de ressortir cette guitare-là, ça a été un pas de plus. Et ouais, la musique, du coup, a eu un rôle énorme depuis ce jour-là. Et je me suis jamais trop éloigné de mes instruments. La période la plus longue où je n'ai pas eu d'instruments sous les mains, c'était 2 semaines. Et c'était dur.
Ah, ok.
C'était dur parce que j'ai toujours besoin. Je suis pas quelqu'un qui parle souvent facilement de ce qu'il ressent ou de ses problèmes profonds ou quoi. Un peu de mal avec ça, tête de famille. Ce genre de choses-là, je les sors mieux avec un instrument entre les mains, que ce soit la guitare, le clavier que je joue un peu moins bien ou même la basse.
Est-ce que tu fais une différence entre le rapport que tu vas avoir à la musique dans ta pratique de la musique et le rapport que tu vas avoir à la musique dans ton écoute de la musique?
Moi, je crois que les deux sont pas très très dissociés chez moi. C'est quand j'écoute de la musique, je suis tout le temps en train d'essayer de chercher le petit détail qui peut m'intéresser ou le petit truc de production.
T'es dedans, quoi, en fait.
Je suis dedans, ouais.
T'es plongé dedans.
Toujours. Et je déteste écouter de la musique sur un truc de merde. En voiture, j'écoute rarement de la musique, j'écoute surtout des voix.
Okay.
Du podcast, j'écoute plein d'autres radios, Radio Campus Bordeaux quand je suis dans les coins de Bordeaux.
Mais t'as besoin d'un environnement, d'un contexte et d'un confort pour écouter de la musique.
Il faut vraiment que je puisse l'écouter correctement.
Et justement, on va s'intéresser à la première fois où ça a pu arriver. Si je te demande ton premier souvenir musical, ce serait quoi?
Oh, le premier souvenir musical, c'est peut-être Noir Désir.
Ouais.
Je revois mon père passer en boucle le CD de Noir Désir.
Au moment où il sortait, possiblement.
Au moment où il sortait, ouais. Oui, c'était peut-être 2002, 2003, un truc comme ça, et où il y avait Le Vent nous portera, c'était le titre dont je me rappelle le plus, sûrement celui qui tournait le plus en boucle dans la maison.
Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies, et moi, tant pis, va la vie. Le Vent nous portera.
c'est là que tu trouves d'ailleurs les premières transmissions musicales, c'est-à-dire que du coup c'est là que t'as puisé en premier, c'est la famille où il y a déjà des découvertes très tôt, des découvertes tout seul aussi de musique, comment ça s'est organisé chez toi ça?
Alors pendant un moment forcément ouais, c'était beaucoup de transmissions musicales par mes parents, ouais. Principalement. Bon après avec l'adolescence j'étais un peu plus curieux, en plus j'ai eu la chance entre guillemets d'être ado quand il y avait YouTube qui apparaissait à fond, et Deezer et Spotify plus tard. On peut critiquer ces plateformes autant qu'on veut, mais elles ont rendu la musique super accessible pour des ados qui n'ont pas le budget de s'acheter un CD, c'était 15 ou 20 balles à l'époque, donc c'était beaucoup plus facile d'aller sur ces plateformes-là où tout était gratuit, même si ça ne donnait pas un bon signal à l'industrie de la musique, mais c'était 10 fois plus facile d'aller voir ça et de découvrir plein de choses. C'est comme ça que j'ai découvert Nirvana qui n'était pas vraiment présent à la maison, c'est comme ça que j'ai découvert Led Zeppelin, c'est comme ça que j'ai découvert des raretés de Pink Floyd que mes parents écoutaient un peu, mais il y avait des raretés qui n'étaient pas trop à la maison, c'était vraiment de niche. J'ai pu découvrir grâce à YouTube et plein de trucs. Buckethead, qui est un guitariste américain que j'adore, j'ai découvert grâce à YouTube.
Alors sans vouloir faire de transition nulle avec le monde capitaliste et Internet, tu m'as fait une petite liste de présentation où tu as évoqué des titres avec ce qu'ils avaient pu représenter concrètement dans ta vie à un moment. Et on est toujours dans de la variété française avec Mickey 3D. Et là, tu évoques des convictions. C'est-à-dire Mickey 3D, non seulement... il y avait le côté en français, mais il y avait aussi, j'imagine, déjà le côté chanson contestataire un peu, ou même peut-être un peu politique au sens large du terme, qui t'a intéressé aussi.
Carrément, ouais. Dès le début, je trouve que Mickey 3D, ça correspond pas mal à des idées que j'ai encore aujourd'hui, c'est ça qui est dingue. C'est un peu plus polissé après par la suite, mais disons que cet album-là était vraiment pinçant, et cette chanson-là particulièrement était assez cinglante dans les paroles, pour des raisons qui sont vachement diverses, notamment liées à l'école et des séquences pas très très drôles à l'école. J'ai toujours été vachement sensibilisé à tout ce qui est justice et juste distribution, égalité, tout ça entre les personnes, pas que à l'école hein, mais bien au-delà. Ça a forgé des convictions à un moment, et voilà, c'est l'égalité, la justice, c'est des trucs moi qui me tiennent à cœur. Le sentiment d'injustice, c'est un truc qui me bouffe. Mickey 3D, ils en parlent vachement dans cette chanson-là
qui s'appelle Il faut toujours viser la tête.
C'est ça.
On a du pain sur la planche, mais on y fait plus attention. Et comme c'est l'heure de la revanche, on se sent comme des vieux croutons. Là-bas y'a des gens qui disent qu'on est libre, alors ils rêvent de nous rejoindre. Ils s'imaginent qu'un jour aussi ça leur arrive de marcher dans les rues sans crainte. Comme personne vient les aider, parce que là-bas c'est tellement loin. La moutarde commence à monter, et ça leur fait serrer les poings. Et pour qu'on sache qu'ils sont vivants, ils ramassent des pierres et les jettent dans la figure de l'Occident. Il faut toujours viser la tête.
Et d'ailleurs, on va passer du français à l'anglais avec parfois des groupes aussi hein, qui savent passer de sacrés messages dans leurs chansons. Le premier titre qui était apparu dans ta liste quand tu as préparé cette émission, c'est « 10 Years Gone » de Led Zeppelin, qu'on avait déjà entendu dans « Reeling in the Years », une émission sur les années 70. Et du coup, je t'avais demandé « C'est quoi toi, les musiques qui te parlent dans les années 70 ?» Et il y avait déjà « 10 Years Gone ». J'imagine que c'est vraiment crucial dans ta discographie de public.
Ouais, et là on en revient au fait que je sépare pas trop le fait d'écouter de la musique et faire la musique.
Okay.
L'enregistrement en lui-même et la production en elle-même de la version originale de Ten Years Gone est pas époustouflante. Par contre, John Paul Jones, qui est un peu le compositeur attitré de Led Zeppelin, qui a vachement influé sur la composition de ce titre-là. Déjà, l'album globalement Physical Graffiti est excellent. C'est peut-être le meilleur de la discographie de Led Zeppelin. C'est le plus connu aussi, mais je trouve que c'est là qu'on a un Led Zeppelin qui est plus travaillé, qui au niveau de la production fait quand même gaffe. C'est moins bourrin qu'avant. Au niveau de la composition, il y a John Paul Jones qui peut vachement prendre plus le pas que d'habitude. On a Robert Plant qui, évidemment, lui, part dans des textes beaucoup plus sincères, beaucoup plus personnels qu'avant. Et 10 Years Gone, c'est typiquement ça, en fait. C'est un texte qui est super à cœur ouvert, et c'est quelque chose qui se sent. Le texte, je m'y étais pas intéressé dès le début, parce que c'est un titre que j'ai découvert en 2010, mais ça se sentait quand même qu'il y avait quelque chose de super sincère, de super profond. Et ça parlait de nostalgie, ça parlait de regrets, ça parlait plus ou moins, il y avait une référence plus ou moins à Janis Joplin aussi sur le pont. Ouais. Enfin, c'est très très complet, en fait. On parle pas que d'un truc, on parle de plein de choses. Sans prêter attention aux paroles, ça se sent terriblement dans la musique et dans la composition.
Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, il y a un vrai vertige hein, aussi avec Led Zeppelin, un vrai ou au moins un voyage en fait, toujours sur une même chanson, sans être dans le côté assez banal et entendu qu'on a avec d'autres groupes. Clairement. Aussi, surtout à l'époque. Vraiment, il nous emporte. Il y a Pink Floyd aussi qui fonctionne comme ça. Il nous emporte sur une même chanson en nous emmenant dans des endroits différents. Et pourtant, la chanson, on pourrait pas la voir autrement. T'enlèves une seconde de Ten Years Gone et c'est plus Ten Years Gone. En fait.
Et c'est plus Ten Years Gone. Et on avait parlé dans l'émission sur les samples dans Goodnight Bordeaux.
Ouais.
Tupac a repris le sample d'intro de Ten Years Gone. Donc, c'est quand même un titre qui est pas très très connu quand même du grand public. Mais quand on connaît un peu Led Zeppelin, c'est un titre qui revient souvent. Je pense que c'est un titre vachement important dans la carrière de Led Zeppelin et eux-mêmes le disent. Il y a plein d'interviews où ils disent que c'est un morceau qui a été compliqué pour eux à mettre en place. D'autant plus que c'est pas très classique où c'est couplet, refrain, pont et puis outro. C'est une structure où vraiment il y a des sections qui s'enchaînent et c'est bien plus dur qu'une chanson où on va répéter des parties. Faire plusieurs sections, faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre elles. Même si c'est des univers différents, c'est le cas de Ten Years Gone, le pont est complètement différent du couplet par exemple. Il faut vraiment gérer ces transitions, il faut gérer l'harmonie, il y a plein de choses à gérer.
Vous devez l'entendre, chers auditeurs et auditrices, on partage quelque chose avec Lucas, c'est la passion pour le contexte musical, l'analyse et du coup de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour faire ça et ça, décortiquer tous les titres dans tous les sens. Mais j'aimerais qu'on parle aussi un peu plus de ton ressenti par rapport aux chansons. Là, on l'a bien compris avec Ten Years Gone, t'as évoqué Placebo avec Bright Lights. Pour toi, ça t'évoque le printemps. Very much to say about my crazy living.
Alors Placebo, ils avaient vraiment cet album-là qui était Battle for the Sun, sorti en 2008 ou 2009, et qui était solaire. Je trouvais cet album-là, ça respire le soleil. Je trouve ça vraiment... Alors, le sujet global du truc est un peu moins gai, mais le ressenti, vraiment, l'instrumental en elle-même, est, je trouve, super jovial, quoi. Moi, ça me rappelle le printemps, c'est la floraison, c'est ça, on voit l'harmonie qui se développe petit à petit dans l'intro.
Tu parles directement de la musique qui t'évoque le soleil ou quelque chose de solaire. Est-ce que pour autant, de manière générale, tu vas capter quelque chose avec une musique, ce qui fait qu'après, quand tu la réécoutes, ça va plutôt te renvoyer vers une époque, un sentiment, des choses comme ça, ou c'est plutôt la musique qui vient, elle, te dire quelque chose et tu l'interprètes comme ça, comme quelque chose de solaire, par exemple?
Cette musique-là, aujourd'hui, elle m'évoque plus grand-chose parce que c'est plus vraiment ce que j'écoute, et Placebo me parle plus trop. Il y a des groupes comme ça qu'on écoute à un moment et qui ne te parlent plus. Ça me rappelle, par contre, des lieux dans lesquels je suis allé à une certaine époque et dans lesquels j'avais écouté peut-être cette chanson-là précisément, ou peut-être pas longtemps avant ou pas longtemps après. Ça me rappelle des allers-retours à Paris que je faisais avec mon père pour le tourisme. Ça me rappelle, j'en sais rien, faut que je fouille dans mes mémoires, mais...
Il y a déjà des exemples, en fait. Ouais. Ça fait remonter des choses à la surface. Et alors, toujours au printemps, dans cette association-là, il y a Radiohead. Là, il faut quand même qu'on s'arrête deux petites secondes, parce que pour celles et ceux qui ne connaissent pas Lucas, Radiohead, je pense que c'est quand même un nom incontournable et peut-être primordial dans ton amour de la musique. Tout à l'heure, je t'ai demandé, la musique, c'est quoi pour toi? Je vais tenter. Radiohead, c'est quoi pour toi? Il représente quoi, Radiohead?
C'est une giga claque à l'origine. C'est très bête. Hein. Moi, j'ai découvert Radiohead par Creep, qui passait sur RTL2.
Comme beaucoup de monde, bien sûr.
Un soir, on rentrait du collège, donc c'était, probablement 2011. Ça devait être, j'étais en troisième, 2011. Bon, c'est une découverte comme une autre, mais j'ai commencé par Creep et je me suis dit, putain, la voix du mec. Qu'est-ce que c'est que ce mec avec cette voix-là? Pour du Radiohead, c'est vraiment simplé et ça manque de profondeur. Mais il y a quand même déjà un peu de jeu de Johnny Greenwood, qui est le guitariste soliste, qui est un peu un savant fou, un peu avec sa Telecaster, qui aime bien expérimenter et tout. Et on sent déjà qu'il a un peu des fourmis dans les doigts, surtout sur Creep, que ça le fait chier de jouer un truc si simple parce qu'il est capable de tellement plus. Et tu sens que sur la fin, sur le solo, il voulait faire plus. Et il y a déjà tous les fondements, en fait, dans Creep. Il y a beaucoup, beaucoup de fondements de ce que sera Radiohead plus tard. Et en fait, chacun avait un potentiel et déjà dans Creep, chacun le montrait. Oui, Radiohead, c'est une influence qui a été énorme. Et puis après, c'était de claque en claque. Je découvrais les morceaux les uns après les autres, les albums les uns après les autres. Il y a eu King of Limbs, qui est sorti en 2010, donc pas longtemps avant que je les découvre, qui est une claque aussi, mais qui était peut-être le moins accessible, donc j'ai mis peut-être du temps à découvrir.
Mais j'aimerais qu'on recoupe vers le contestataire, avec surtout Hail to the Thief.
Pareil, encore une claque. En fait, chaque album de Radiohead, à chaque fois, ils essayaient de faire des volte-face par rapport à ce qu'ils faisaient avant, parce qu'ils voulaient absolument pas se répéter. C'est ça qui leur a coûté cher d'ailleurs, et qui fait qu'aujourd'hui, ils sont un peu dans un état incertain, parce que c'est compliqué de faire des volte-face tout le temps. Et puis il faut de l'espace, parce que là concrètement ils avaient utilisé beaucoup beaucoup d'espace musical. C'était compliqué de trouver un nouvel espace à conquérir après le dernier album qu'ils ont fait en 2016. Et donc oui, Hail to the Thief, c'est vraiment cet album là qui est assez rude, assez froid, et qui est surtout assez impulsif. Dans la plupart des chansons qu'il y a, c'est vraiment de l'impulsion, c'est de la contestation. On sent qu'il y a une sorte de rage quand même qui est sous-jacente dans la plupart des chansons, notamment le titre d'intro qui est 2 plus 2 égale 5, 2 plus 2 is 5, qui est une référence immédiate à 1984 d'Orwell. En fait, on sent que les sonorités vont être assez acides, assez stridentes. Ça va être quelque chose d'assez agressif, même dans les textes, dans l'instrumentation, dans la composition. Après, il y a un titre « Where I End and You Begin ». Il reste dans l'agressivité sonore, mais pas dans l'agressivité rythmique comme on était juste avant. C'est quelque chose de quand même de plus souple, de plus doux. Et c'est là que Radiohead va sortir une carte magique qu'ils ont sorti un paquet de fois derrière. C'est Londres Martenot.
Ah.
Et qui, je trouve, moi, fait un boulot énorme. Alors après, ça a été produit par une main de maître, Nigel Godrich, qui a vraiment réussi à rendre le son de Londres Martenot, qui est assez difficile à travailler parce qu'il y a pas mal d'harmoniques. Il a réussi à le rendre vraiment beau. Mais voilà, c'est porté par Londres Martenot, ce son-là, et je pense que c'est ça qui fait le charme aussi, parce qu'il y a vraiment cette dynamique-là, il y a ce son un peu strident, il y a une énergie, je trouve. Alors je ne danse pas du tout, mais vraiment quand j'écoute celui-là, j'ai vraiment envie de danser un peu comme Thom Yorke. Il y a un groove qui est très sympa. Pour les musiciens, vraiment, si vous avez une basse sous la main, essayez de faire les lignes de basse, elle est très très sympa, elle n'est pas compliquée. Mais vraiment, on prend du plaisir à se mettre dans ce groove-là, à s'inscrire dans ce truc-là et même à chercher à improviser derrière, c'est une très belle base.
Et ça touche à notre amour du son, on écoute « Where I End, You Begin ». Musique et ton rapport à la musique, mais je sais que toi, Lucas, tu as un rapport particulier, surtout au son en général et en fait tel qu'il est créé, donc pas forcément quand il est mélodieux, quand il est dans l'harmonie, dans la recherche musicale. Quand tu évoquais les ondes Martenot, ça m'y a fait penser. Tu peux me parler de peut-être de ton rapport justement entre le son, la musique. Est-ce que ça, pour toi, ça se mélange, j'imagine?
Ah, les deux sont super liés. La musique, c'est une chose. Alors après, il y a des morceaux très mal enregistrés, très mal produits, qui sonnent super bien. Il faut pas se dire que si je suis mal produit, je ne peux pas faire de la musique. Et voilà, c'est dur, mais on peut se démerder avec de très mauvais outils. Par contre, la production, elle peut révéler complètement certaines parties des morceaux et elle peut rendre certaines pistes complètement majestueuses et rendre justice au travail des musiciens, parce que le boulot d'un ingénieur du son, c'est aussi de rendre justice au travail qu'on lui propose.
Et venir faire fonctionner des choses qui n'auraient pas fonctionné au préalable.
Alors c'est pas pour le grand public, hein. Il y a peut-être plein de gens qui passeront complètement à côté. Un des trucs qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille de cette histoire-là, de la production qui était super importante, il faut écouter la chanson Comfortably Numb de Pink Floyd. Et juste avant le deuxième solo, donc au niveau de la fin, le deuxième solo qui d'ailleurs est démentiel, il y a un petit détail. Si on écoute bien la basse, elle va pour annoncer le solo. C'est quelque chose de très léger, mais la basse, elle va être complètement perdue dans une réverbe qui est assez énorme et du chorus en même temps. Ça donne un effet d'épaisseur. Le break de batterie à ce moment-là est vraiment pas impressionnant du tout. Le seul truc qui va monter en intensité et annoncer ce qui va suivre légèrement, c'est juste cette basse-là. Et cette basse-là, ça a été l'ingénieur du son qui l'a ajouté après, en post-prod. Et ça, c'est vraiment ce que j'appelle rendre justice au travail qui a été fait. Et c'est ce genre de détail-là qui est super important pour qu'un morceau fonctionne.
Et qui te parle quand tu viens l'écouter, j'imagine. Alors, en parlant de musique qui parle, dans cette émission, j'ai un titre qui me plaît plus que les autres. Alors, avec notre ami Thierry, c'était Waiting Line de 07. Et ce soir, c'est Dido. Alors, je connaissais Dido, mais je pense que si je l'avais entendu, ça faisait très très longtemps. En tout cas, j'avais oublié que j'avais entendu Northern Skies. Est-ce que tu peux m'en dire plus de ce titre, de ce qu'il représente pour toi ?
Northern Skies, encore une fois, on est sur un morceau, c'est un peu comme Ten Years Gone, qui traîne en longueur. Pour le coup, il n'y a pas 10 000 sections, là, il n'y en a qu'une.
Et je lui ai trouvé d'ailleurs un parrainage avec Radiohead, dans quelque chose qui passe avec la musique, même dans le côté un peu, pas lancinant, mais un peu...
C'est clairement lancinant, oui, il y a clairement ce côté-là qui revient. Ouais, il y avait une sorte de paix, en fait, dans ce morceau-là, et puis c'est un morceau de fin d'album. Ce morceau-là, en fait, je l'ai réécouté plus tard, et j'ai fait attention à tous les détails qu'il pouvait y avoir. Encore une fois, on parlait de rendre justice au travail des musiciens. Si on écoute bien, il y a un léger écho, très léger, sur la caisse claire. Si on écoute bien, la basse, elle a un son super feutré, qui est en réalité très dur à avoir. Il faut compresser, il faut avoir un système d'enregistrement bien particulier, avec des amplis bien particuliers. Donc il y a tout un tas de contrastes, de petites, on peut pas dire petites magouilles, mais de petits...
Bah c'est des bonnes magouilles.
C'est des bonnes magouilles, voilà, de petits trucs d'ingénieur du son un peu partout dans ce morceau-là que je trouve vraiment super intéressant. Et on peut critiquer ce morceau-là parce qu'il traîne en longueur, parce qu'il est répétitif, mais en fait...
Il y a du contemplatif.
C'est du contemplatif. Ce qui compte, c'est la contemplation et c'est ce qu'elle donne à voir, les paysages qu'elle décrit, même ce qu'elle fait ressentir, cette espèce de solitude, cette espèce d'évocation de grands espaces qu'elle fait dans les textes ou même dans, ne serait-ce que par sa voix qui s'ouvre avec cette grande réverbe. C'est du contemplatif et je trouve que c'est extrêmement réussi.
I have returned to northern sky. Where summer hasn't touched, the clouds that pass above. I have returned to the somber grays of days too early to come and too hurried to stay. I have left a million stars in an ocean light and clearly blue. Oh, I have left the warmth of the sun and a million adventures not yet begun. Beauty here for me under the wide northern skies, and once there was magic here. As dark as blue, heartbreak and poetry with deeper roots. And now I know this is lonely country, and it leads me only back to the sea.
Under the wide
hasn't touched the clouds that pass above. I have returned to the somber grace, days too early to come and too hurry to stay. For once there was beauty here for me under the wild blown skies, and once there was magic here.
Vous êtes toujours à l'écoute de Vertigo et ce soir notre vertige musical s'intéresse au rapport qu'entretient notre invité Lucas à la musique. Rebonsoir Lucas.
Rebonsoir.
On est encore ensemble jusqu'à 22h sur Radio Campus Bordeaux 88.1, mais vous pouvez également nous réécouter quand vous le souhaitez en podcast sur les pages SoundCloud et Spotify de Radio Campus Bordeaux. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux, vous trouverez une page Vertigo qui vous permettra d'avoir toutes les informations nécessaires à notre sujet. On va faire un peu de synchronicité, mon cher Lucas, puisque en 2003, j'imagine, tu allumes ton ordinateur qui tourne sous Windows XP, et là, il y a une chanson par défaut.
C'était de Like Humans Do, et c'était de David Byrne.
Exactement.
Dont je ne connais absolument pas la carrière, et je ne connais qu'un seul morceau.
For millions of years, in millions of homes, a man loved a woman, a child it was born, it learned how to hurt.
Certains d'entre vous vont se dire, mais il est passé à côté de quelque chose, le Lucas, là. C'est bien, parce que c'est un vertige musical, Vertigo, et peut-être que je vais créer une espèce d'explosion dans ton cerveau. David Byrne, il a eu un groupe, et son groupe est littéralement à l'origine de l'existence de ton groupe préféré de tous les temps.
Je sens que je vais tomber d'environ 15 étages, mais effectivement, je me suis jamais intéressé, parce que c'est quelque chose que j'ai déterré pour les besoins de l'émission, et je me suis rappelé, putain, David Byrne, quoi, sans déconner.
Like Humans Do, c'était certes la chanson par défaut de Windows XP, mais David Byrne, c'est quand même une légende de la musique, puisqu'il a eu un groupe dans sa jeunesse qu'il a suivi, qui s'appelle les Talking Heads. Et les Talking Heads, ça tu dois le savoir évidemment, ils ont une chanson qui a littéralement inspiré le nom d'un groupe, puisque leur chanson c'était Radiohead. Et c'est ça littéralement qui a donné le nom à Radiohead, donc je trouve ça génial que tu n'aies pas fait le lien. Et donc Like Humans Do, je trouve dans la sonorité, en fait, il y a encore... Ça, on boucle en fait vachement avec et ce qu'il faisait avec Talking Heads et aussi tout un tas de sonorités et d'idées sonores que peuvent avoir après plein de productions et notamment ses fans les plus connus qui sont les musiciens de Radiohead. Et je propose qu'on reste dans une ambiance un peu numérique avec cette fois les jeux vidéo, parce que si t'allumais ton ordinateur, j'imagine que c'était pour jouer aux jeux vidéo, et dans les jeux vidéo, il y a de la musique. Ça a eu une importance, j'ai l'impression, ça, avec toi aussi.
Énorme. Il y a une histoire d'ambiance, une histoire de contemplation, et c'est un truc que je trouve vachement important dans la musique aussi. C'est vraiment des choses qui sont moins accessibles, qui sont vraiment très sous-cotées. Pas forcément l'ambiance pure, hein, ça peut être un truc comme Dido, qu'on a écouté tout à l'heure, qui peut aller très loin dans le contemplatif, dans l'ambiance, sur la musique de jeux vidéo. On est immergé de par... Alors quand on parle de RPG, comme Zelda, comme Skyrim, comme The Witcher, on est immergé parce qu'on va commander un personnage, on va commander les bras, les jambes, les actions, on est immergé parce qu'on va entendre les personnes qui lui parlent et tout, mais on n'a pas la sensation de chaleur, de froid, d'humidité, et du coup, pour compenser ça, il faut immerger les gens, il faut leur faire croire, il faut faire des sons, des musiques qui évoquent l'odeur des champs au printemps, qui évoque l'ambiance d'une ville à une certaine heure. Je pensais à Awake de la BO de Skyrim.
Incroyable.
Et encore plus impressionnant sur la BO de Skyrim, c'est qu'il y a littéralement 4 CD.
Il y a du contenu.
Ça fait plus de 3 heures, presque 4, de musique non-stop qui s'enchaîne,
ouais.
Comme s'il avait tout composé d'un seul bloc. Je sais pas si ça a été fait comme ça, mais vraiment, ça s'écoute d'un seul bloc, sans rupture, et on a l'impression que tout se suit.
Et tu voyages du coup instantanément, et donc j'imagine d'autant plus que toi-même, tes propres voyages, tes parcours peuvent s'associer à de la musique. Quand tu m'expliques que ton premier voyage à Bordeaux se fait ponctuellement en musique, il y a un souvenir qui vient, ça va être Moby. Et là, avec Moby, on est encore en plein dans ce qui te fascine et ce qui te passionne autour du travail du son et de l'utilisation des voix, notamment. On en a parlé d'ailleurs dans cette émission Vertigo, mais je sais que c'est quelque chose qui te parle beaucoup, les mots mis en musique, puisque c'est quelque chose que tu fais toi-même sous le nom de Sounds from the Mist. Don't give yourself to these unnatural men.
the love of humanity in your heart. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you, you the people have the power.
Tu travailles avec les mots, parfois plus le discours, des choses parlées, de la même manière aussi qu'il y a bien longtemps, mais dans une autre optique, et c'est un point commun entre nous deux, puisque moi aussi j'ai beaucoup écouté cette chanson quand j'étais petit. Moby le faisait avec des enregistrements sonores faits par les Lomax. Moi je l'écoutais à l'époque de sa sortie, et je trouve que Moby, il va extrêmement bien avec la ville de Bordeaux. Je sais pas ce que t'en penses.
Je trouve aussi, et alors je l'écoutais assez jeune, hein, on allait avec mes parents régulièrement à Bordeaux pour faire du tourisme ou aller à Ikea. Ça nous arrivait. Et ouais, souvent dans la voiture, bah c'était, de toute façon à l'époque on avait le CD, c'était le Best of de Moby qui venait de sortir.
Ok.
Go the Very Best of Moby. Et il y avait Natural Blues qui ouvrait cet album-là.
Forcément.
Et c'était absolument masterclass, quoi. Parce que alors moi, pour le coup, j'étais assez jeune, je découvrais Moby. Et je me disais, ça c'est fort. Et un jour, je veux arriver à manier la voix comme ça. Un jour, j'arriverai à faire des trucs comme ça, à travailler avec la voix. Cette idée de faire cette EP-là, Words, en travaillant des discours et en mettant des instrus dessus qui soulignaient les mots, qui soulignaient l'intensité, qui étaient là pour agrémenter le discours, j'étais convaincu que c'était de la radio qui m'avait mené vers ça. J'avais complètement oublié qu'à une certaine époque, j'écoutais en boucle Moby qui faisait quasiment la même chose.
J'ai envie qu'on écoute des choses qui sonnent un petit peu différemment, comme avec notre cher Hemlock Ernst et Down.
Ce morceau-là, pour l'anecdote, je l'ai découvert, mais alors c'est complètement improbable. Je ne sais plus par quel miracle je m'étais abonné à la playlist de Pitchfork il y a quelques années. J'y suis toujours abonné d'ailleurs, parce que de temps en temps je découvre de sacrés trucs. Et puis j'avais vu le nom de Hemlock Ernst, je sais plus comment, mais je savais que ce mec-là, c'était le chanteur des Future Islands, qu'on a programmé plusieurs fois sur Radio Campus Bordeaux, aux alentours de 2017. Et que j'avais bien aimé, même si je trouvais assez redondant quand même ce qu'il faisait, mais je trouvais le concept assez sympa. Et je me suis dit, purée, ce mec, il fait autre chose que Future Island, et en plus, il fait du rap. Alors je suis pas du tout fan de rap, je suis pas non plus un hater de rap ou quoi, mais c'est vraiment pas quelque chose qui me parle la plupart du temps. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé de ouf. C'est surtout l'instrumental qui m'a parlé, et le phrasé après, ça vient naturellement avec, et c'est quelque chose qui va vraiment agrémenter l'instru qui est déjà excellente. Mais c'est vraiment ce clavier, quoi, cette progression d'accords qu'il y a dès le début. Alors je sais pas si c'est du clavier électrique, enfin, du piano électrique, ou si c'est autre chose de plus exotique, mais vraiment ça sonne comme ça. Il y a une vraie production avec ce son très recherché, où on se sent vraiment enfermé dans une toute petite pièce, et où on sent que vraiment il y a ce son où il y a quasiment que des médiums basses, et c'est pareil, très apaisant. Et à l'inverse, il y a la voix qui vient casser ça et qui vient ajouter une sorte d'énergie, une sorte de dynamisme. Et ce flow, vraiment ce flow. Parcel de freak, just combined with this feeding author, been novelist, had a speech, hatched head in the beach, doom bassoon, typhoon swoon, heavy in June, too weak to play the spoons, to laugh, to see the rest, caress the size, before the top sauce spoils, the seeds, it's unballs, and sprouted, we encore, like tongues from snakes, it's sung, lungs hung from drapes, encased in dust and silk husks. They hush when wind brush, the touch of skin brush, the blood blush, like tension in terse verse, like needles in church, when pen drops in language, weaves ways, my ankles soothe, my thank yous, embrace the distant taste and grace, air, walls the fair stare of light, fire shed bare my life, carried on by unawares at night, between the dawn of wrong and right. Magic, 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 men waiting their new recital. Second pageant for the mask is title five. Breathing dragon revival, no Bible to read, no idol to rival. Second chances, even atrophic cycle. Opening it, open to sin and hoping to finish. Holding repentance, notice diminished and blasphemy side. Circling the opposite eye, purpose unspeakable. Why circus of human disguise? Unattended, it's firm, we grind. Service to live feast, down in dirty water. Under you, auto oddities. Resurface, bloated lack of sleep. Turn pressure to freeze, forcibly lessening. Reap by turning their flesh on the green. Motioning hand as a weed. Bravery labeled as weak. Weaning themselves from a tea, milk by the ounce. Precious than sound, vision is doubt depends on new listeners now. Voicing their cries, sensing the ground, moistening eyes without a sound. Recycling frowns with all the what was that in light? And I might write viruses, no viruses. Dread light to shoot you. What cynical ways with cinnamon's blade to boot you? What venomous names and juice to take the break? Metal line, cause a night and a night, 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 night. What was that in light? And I might write viruses, no viruses. Dread light to shoot you. What cynical ways with cinnamon's blade to boot you? What venomous names and juice to take the break? Metal line, cause a night and take you down. Globalement, oui, y a pas grand chose qui me bloque complètement. J'ai un peu de mal avec le classique, dédicace à notre prof du collège en musique qui nous rabattait les oreilles et qui arrêtait pas de nous dire on dit pas musique classique, on dit musique savante. Et il avait raison, parce que la musique classique c'est une partie de la musique savante, c'est une époque. Et ça, c'est vrai, c'est pas que je déteste, mais c'est quelque chose qui me parle moins. J'ai moins de culture là-dedans.
Il y a des styles comme ça qui te parlent moins, quoi.
Carrément, bah, le rap me parle un peu moins, quoique il y a quand même certaines parties du rap qui me parlent. Notamment bah, celle avec M-Lock Ernst, cette partie-là du rap US, XXXTentacion qui me parle pas mal. Mais après, voilà, c'est vraiment, ouais, je pense qu'avec le classique, il y a peut-être un truc à explorer là-dedans. C'est vraiment pas quelque chose qui m'attire. Peut-être dans quelques années.
Alors, tu parlais de programmation radio. On a parlé aussi du fait que tu présentes des émissions à la radio. La radio, il y a de la musique qui passe et il y a des découvertes. Il y a une découverte qui nous a marqué à toi et à moi, c'est Ordinary Day.
Et c'est un morceau que j'ai poncé, moi, tout l'été. Alors, je sais plus si c'est 2015 ou 2016, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. C'est un morceau que j'ai pensé tout l'été, je l'ai entendu peut-être au mois d'avril ou mai. Ça me rappelle toujours ce soir d'été où j'ai entendu ça dans la playlist de Ghislain Fernand.
Écoutez Radio Campus.
Depuis tout à l'heure, j'ai du mal à mettre des mots sur cette espèce d'ambiance qui se retrouve, ce côté très, à la fois très produit, mais entre l'instrumental et parfois vraiment des recherches de production hein, qui créent une ambiance, un environnement musical. J'ai du mal à mettre des mots pour décrire ce à quoi ça peut ressembler. Mais je pense, chers amis qui nous écoutez, que vous commencez à faire un petit croquis de tout ce qui se dessine avec tous les titres qu'on a écoutés ce soir. On dirait que c'est travaillé comme playlist, que c'est recherché en tout cas dans une certaine cohérence, mais je pense que tu as vraiment pris des titres qui te passait par la tête qui pourrait...
Ah, c'est comme ça venait, je tapais des noms d'artistes que j'écoutais, je cherchais les titres, j'ai dû chercher une centaine d'artistes que j'écoutais à différentes époques, ce dont je me rappelais de tête. Petit à petit, c'est venu.
Je trouve ça très cohérent, moi, pour ma part. Et en fait, je trouve que ça ressemble aussi beaucoup à ta musique, pour moi qui connais la façon avec laquelle tu composes et tu crées de la musique. Et j'ai envie, comme presque point culminant de cette ambiance musicale, d'arriver à un groupe que tu as même carrément vu sur scène, qui est Sungazer. Et là, c'est une claque live qui est très chold.
Énorme.
Ouais.
Énorme. Threshold, il faut savoir que c'est le morceau qui ouvre l'album Perihelion de Sungazer, mais c'est aussi le morceau qui ouvre leur set de live. Alors après, ils alternent un peu les chansons, ils changent un peu l'ordre, mais s'il y a un inconditionnel, c'est qu'ils ouvrent toujours par Threshold, et bon, c'est pas un hasard. C'est vraiment que ce morceau-là, il a une puissance, encore une fois, c'est la couleur que donnent les accords. C'est des accords qui sont pas communs, qu'on entend, c'est plus ni moins du jazz. Alors après...
Ah, c'est du jazz, hein, clairement.
C'est compliqué de le définir, mais...
Future jazz.
Voilà, on pourrait revenir à ce ref-là, mais c'est ni plus ni moins du jazz, on peut pas le nier. Et c'est des accords qui sont à la fois pas communs du tout, mais qui en même temps sont super accessibles. C'est pas des trucs complètement dissonants, avec des dièses et des bémols partout, dégueulasses. C'est vraiment quelque chose qui est très structuré. Si tu l'écoutes pas de près, tu te dis ouais, ça sonne pas mal, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est le cas de Threshold.
Et puis il s'amuse en plus.
Et il s'amuse en plus sur scène. Il s'amuse vachement. Pompon sur la Garonne avec cette histoire-là, en live, il le joue avec Jared Yee, un saxophoniste new-yorkais, qui fait les parties de solo au saxophone. C'est un truc, ça vous ferait chialer. Vous commencez le concert sur ça, ce saxophone qui hurle dès le début du concert, ça vous fout des frissons. J'ai rarement été pris aux tripes comme ça par une chanson. Honnêtement, très très fort. Il faudrait qu'ils enregistrent, qu'ils prennent une version live, c'est magnifique.
Il est déjà l'heure de conclure cette émission. J'espère que notre petit aperçu du lien entre Lucas et la musique vous a plu. Et j'espère que toi, le premier, tu as apprécié ce vertige musical. Pour vous y plonger davantage, je ne peux que vous conseiller son émission de radio Good Night Bordeaux. C'est un jeudi sur deux de 22h à 23h. En plus, à chaque fois, c'est la même semaine que Vertigo et ça fait pas mal écho à notre émission puisque on se plonge pas mal dans l'intimité musicale de chaque participant, je trouve. Et c'est aussi l'occasion de se rendre compte des points communs qu'on peut avoir les uns les autres, à commencer, mon cher Lucas, par notre passion commune pour une chanteuse portugaise que j'aime beaucoup et que j'ai déjà beaucoup diffusée dans cette émission, Maro. Tu as choisi d'évoquer Saudade. Saudade, qu'est-ce que ça représente pour toi? J'ai l'impression un voyage au Portugal déjà, carrément, à Lisbonne, qui allait bien avec cette musique.
Saudade, c'est un mot qu'on n'a pas en français.
Qui n'existe pas en français, ouais.
Qui est très dur à traduire.
On parlait dans l'émission avec Thierry, on a fait tout un sujet autour de la mélancolie, d'à quel point ça fonctionne en fait la musique quand c'est porté par une impulsion de mélancolie et quand tu arrives à faire un équilibrage entre la mélancolie, la nostalgie, la musique, et que tu arrives à articuler tout ça. Et c'est là que ça marche le plus.
Et c'est peut-être ce mot qui nous manque,
ouais,
pour toucher du doigt en fait pas mal de choses qui lient les chansons de cette playlist qu'on a fait ce soir.
Pas forcément avec du regret des fois, mais ouais, dans la contemplation, il y a ce saudade qui est assez incroyable et qu'on retrouve beaucoup chez Maro.
Lisbonne, il y a vraiment ce côté-là de saudade. Et c'est, on sent qu'il y a eu un empire là-bas. Historiquement, il y a eu un énorme empire.
Ah bah bien sûr.
Il y a eu des richesses de tous les côtés. Et on sent qu'il y a tous ces bâtiments qui sont magnifiques, cette architecture-là dans Lisbonne qui est vraiment super belle, cette ville qui est un bijou. Et il y a cette ambiance en même temps, paisible, donc pas comme une grande ville qui encore aujourd'hui brasse énormément d'argent, ce qui c'est plus le cas, plus autant qu'avant. Mais en même temps, il y a toute cette grandeur qui reste là, mais un peu une sensation de vide, de mélancolie, un peu de regret, de manque. Il faut aller voir les jardins du palais présidentiel à Belém. Il y a une partie de ces jardins-là qui sont visitables, et ces grandeurs et décadences. Être et avoir été, c'est exactement ça.
Maro avec une voix incroyable.
Tu en as parlé longuement dans un Vertigo précédent.
Ouais.
Une technique vocale qui est tout simplement époustouflante.
Et je te propose justement qu'on le prenne plus comme une claque, comme avec Sungazer tout à l'heure, cette mélancolie de Saudade, puisqu'on va écouter la version acoustique qui a été sortie par Maro. Saudade, Saudade, la version acoustique. Merci Lucas, merci à vous de nous avoir suivis. J'espère vous retrouver prochainement pour un nouvel épisode de Vertigo. À bientôt.
Salut.
I've tried to write a million other songs, but somehow I can't move on. Oh, you're gone. Takes time, alright. And I know it's no one's fault, but somehow I can't move on. Oh, you're gone. So that so that nothing more that I can say, says it in a better way. So that so that nothing more that I can say, says it in a better way. Tem tanto que trago comigo, foi sempre o meu porto de abrigo. E agora nada faz sentido, perdi o meu melhor amigo. E se não for demais, peço por sinais. Resta uma só palavra. Saudade, saudade. Nothing more that I can say, says it in a better way. Saudade, saudade. Nothing more that I can say, says it in a better way. Nothing more that I can say, says it in a better way. I've tried alright, but it's killing.